Il devrait exister une science de la contrariété. Les gens ont besoin d'épreuves difficiles et d'oppression pour développer leurs muscles psychiques. Extrait de L'Édit de Muad'Dib par la princesse Irulan. Jessica s'éveilla dans l'obscurité et le silence fit naître en elle une prémonition. Elle ne comprenait pas pour quelle raison son corps et son esprit étaient si lents. La peur courut au long de ses nerfs. Elle pensa qu'il lui fallait s'asseoir, allumer, mais quelque chose s'opposait à cette décision. Sa bouche était bizarre. Doum, 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 doum. Le son était étouffé. Il venait de nulle part, du fond de l'obscurité. Un moment d'attente, lourd de temps, empli de mouvements, de bruissements. Elle commença à percevoir son corps, les pressions sur ses chevilles, ses poignets. Un bâillon sur sa bouche. Elle était étendue sur le côté, les mains liées dans le dos. Elle tira sur les liens. De la fibre de Crimskel. Leur étreinte ne ferait que se resserrer à chacun de ses mouvements. Maintenant, elle se souvenait. Dans l'obscurité de sa chambre, il y avait eu un mouvement. Quelque chose d'humide et de mou avait été pressé contre son visage jusqu'à lui emplir la bouche. Elle avait tendu les mains, essayé d'arracher la chose. Elle avait aspiré, une fois, et décelé le narcotique. Sa conscience avait diminué très vite, la plongeant dans un bain noir de terreur. « C'est arrivé, » pensa-t-elle. Comme il lui a été simple de venir à bout d'une Bene Gesserit. La trahison a suffi. Hawat avait raison. Elle lutta pour ne pas tirer sur ses liens. « Ce n'est pas ma chambre, » pensa-t-elle. « Ils m'ont emmenée ailleurs. » Lentement, elle rétablit le calme en elle-même. Elle prit conscience de l'odeur de sa propre sueur, de l'émanation chimique de la peur. « Où est Paul ? Mon fils, que lui ont-ils fait ?» Calme. Elle lutta pour le calme, se servant des vieux enseignements. Mais la terreur demeurait si proche. Leto. Où es-tu, Leto ? L'obscurité diminuait. Il y eut des ombres d'abord. Les dimensions furent marquées et devinrent autant d'aiguilles de perception. Blanc. Une ligne sous une porte. Je suis sur le sol. On marchait. Elle décelait les pas dans le sol. Elle repoussa le souvenir de la terreur. Je dois rester calme, éveillée, prête. Je n'aurai peut-être qu'une seule chance. À nouveau, le calme intérieur. Les battements de son cœur ralentirent, devinrent réguliers, prirent un rythme. Elle se mit à compter à rebours. Elle pensa « J'ai été inconsciente environ une heure. » Elle ferma les yeux, focalisa toute sa perception sur les pas qui approchaient. 4 personnes. Elle décelait la différence de leur démarche. Je dois feindre l'inconscience. Sur le sol froid, elle se détendit, vérifia l'éveil de tout son corps. Une porte s'ouvrit. Elle devina la lumière au travers de ses paupières closes. Des pas, plus proches. Quelqu'un se penchait sur elle.
Vous êtes éveillée. Dit une voix de basse. N'essayez pas de feindre. Elle ouvrit les yeux.
Le baron Vladimir Harkonnen se dressait au-dessus d'elle. Derrière lui, tout autour, elle reconnut la cave où Paul avait dormi. Elle vit la couche, vide. Des gardes arrivaient avec des lampes à suspenseurs qu'ils placèrent près du seuil. Dans le hall, au-delà, régnait une lumière vive qui lui blessa la vue. Elle regarda le baron. Il portait une cape jaune déformée par des suspenseurs portatifs. Sous ses yeux noirs d'araignée, il avait les grosses joues d'un chérubin.
L'effet de la drogue a été calculé avec précision, reprit-il. Nous savions exactement à quelle minute vous deviez vous éveiller.
Comment est-ce possible ? Pensa-t-elle. Il leur faudrait connaître mon poids exact, mon métabolisme, mon...
Yue. K. Quel dommage que vous deviez rester bâillonné, dit le baron. Nous pourrions avoir une conversation fort intéressante.
Yue est le seul possible, songeait Jessica.
Mais comment ?
Le baron se tourna vers le seuil.
Entre, Peter.
Elle n'avait encore jamais vu l'homme qui entrait et qui vint se placer à côté du baron. Pourtant, son visage lui était connu. Et son nom ?
Peter de Vries, l'assassin Mentat.
Elle l'examina. Des traits de faucon, des yeux d'un bleu d'encre qui suggéraient qu'il était natif d'Arrakis. Mais les détails subtils de son maintien et de ses gestes démentaient cette idée. Et il y avait trop d'eau dans sa chair ferme. Il était grand, élancé, avec quelque chose d'efféminé.
Vraiment dommage que nous ne puissions avoir cette conversation, reprit le baron. Mais ma chère dame Jessica, je connais vos possibilités.
Il jeta un coup d'œil au Mentat.
N'est-ce pas, Peter?
Comme vous le dites, baron.
La voix était celle d'un ténor. Elle répandit une soudaine froideur au long des nerfs de Jessica. Jamais elle n'avait entendu une voix aussi glacée. Pour une Bene Gesserit, c'était comme si Peter avait hurlé « Tueur !»
J'ai une surprise pour Peter, reprit le baron. Il pense être venu ici pour percevoir sa récompense, vous, dame Jessica. Mais je souhaite démontrer une chose, qu'il ne vous désire pas vraiment.
Vous jouez avec moi, baron ?
Demanda Peter en souriant. En voyant ce sourire, Jessica se demanda comment le baron pouvait ne pas se défendre immédiatement contre les atteintes du Mentat. Puis elle comprit qu'il ne pouvait lire ce sourire. Il n'avait pas reçu l'éducation.
De bien des façons, Peter est particulièrement naïf. Il ne parvient pas à saisir le danger mortel que vous représentez, dame Jessica. Je le lui montrerai bien. Mais ce serait prendre un risque inconsidéré.
Le baron eut un sourire à l'adresse de son Mentat, dont le visage était devenu le masque de l'attente.
Je sais ce que Peter désire vraiment. Il désire le pouvoir.
Vous m'avez promis que je l'aurai, elle, dit Peter.
Et sa voix de ténor avait perdu un peu de sa froideur. Jessica avait lu les tonalités clés dans ses paroles, et elle eut un frisson intérieur. Comment le baron avait-il pu faire d'un Mentat cet animal ?
Je t'offre un choix, Peter, dit le baron.
Quel choix ?
Le baron fit claquer ses gros doigts.
Cette femme est l'exil loin de l'Impérium, ou le duché des Atreides sur Arrakis pour y régner en mon nom et à ton gré.
Les yeux d'araignée du baron ne quittaient pas le visage du Mentat.
« Ici, sans en avoir le titre, tu pourrais être duc, » ajouta-t-il.
« Mon Leto serait donc mort ?» se dit Jessica. Quelque part, tout au fond d'elle, elle se mit à gémir. Le baron observait toujours le Mentat.
« Comprends-toi, Peter. Tu la veux parce qu'elle est la femme d'un duc, le symbole de sa puissance. Elle est belle, utile, parfaitement entraînée à son rôle. » Mais tout un duché, Peter. Voilà qui est mieux qu'un symbole. Une réalité. Avec cela, tu pourrais avoir bien des femmes, et plus encore.
Vous ne vous moquez pas de Peter ?
Le baron se retourna avec cette légèreté de danseur due au suspenseur.
Me moquer ? Moi ? Souviens-toi, j'abandonne l'enfant. Tu as entendu ce que le traître a dit de son éducation ? Ils sont pareils, la mère et le fils, mortellement dangereux.
Il sourit.
Maintenant, je dois m'en aller. Je vais appeler le garde que j'ai conservé pour cette occasion. Il est totalement sourd. Ses ordres sont de t'accompagner durant une partie de ton voyage d'exil. S'il s'aperçoit que cette femme te contrôle, il la supprimera. Il ne te permettra pas de lui retirer son bâillon jusqu'à ce que tu sois très loin d'Arrakis. Mais si tu choisis de ne pas partir, il a d'autres ordres.
Il est inutile de quitter cette pièce,
dit Peter. J'ai choisi.
Ah, ah, une décision aussi rapide ne peut signifier qu'une chose.
Je prends le duché. Ne sait-il pas que le baron lui ment ? Songea Jessica.
Mais comment le pourrait-il donc ? Ce n'est qu'un mentat dégénéré.
Le regard du baron s'était porté sur elle.
N'est-il pas merveilleux que je connaisse à ce point Peter ? J'avais fait le pari avec mon maître d'armes qu'il accepterait ce choix. Ah, bien, je m'en vais à présent. Ceci est bien mieux. Bien mieux, vous comprenez, dame Jessica ? Je n'ai aucune rancune à votre égard. C'est une nécessité. C'est bien mieux ainsi. Oui, je n'ai pas ordonné vraiment que vous soyez supprimé. Lorsque l'on me demandera ce qu'il est advenu de vous, je pourrai hausser les épaules en toute vérité.
Vous me laissez donc cela ? Demanda Peter.
Le garde que je t'envoie prendra tes ordres, quel qu'il soit. Tu es seul juge.
Il fixa son regard sur le mentat.
Ouais. Je n'aurai pas de sang sur les mains. Ce sera ta décision. Ouais. Je ne veux plus rien savoir de tout ceci.
Tu attendras mon départ avant de faire ce que tu dois faire.
Ouais. Bien. Ah, oui. Très bien.
Il craint les questions d'une diseuse de vérité, pensa Jessica. Qui ? Ah, mais la révérende mère Gaius Hélène Mohayam, bien sûr. S'il sait qu'il devra répondre à ces questions, alors c'est que l'empereur est mêlé à cela. Certainement. Mon pauvre Leto. Il lui accorda un dernier regard, puis se dirigea vers la porte. En le suivant des yeux, elle pensa « La révérende mère m'avait averti. C'est un adversaire trop puissant. » Deux soldats Harkonnen firent leur entrée. Un troisième se plaça sur le seuil. Il brandissait un laser et son visage n'était qu'un masque de cicatrices. « Celui qui est sourd, » pensa Jessica. « Le baron sait que je pourrais utiliser la voix. » Le soldat aux cicatrices regarda le mentat. « Le garçon est sur une litière dehors. Quels sont vos ordres ?» Peter s'adressa à Jessica. « Je pensais vous neutraliser en menaçant votre fils, mais je commence à comprendre que cela n'aurait pas été efficace. Je laisse l'émotion prendre le pas sur la raison. Attitude néfaste pour un mentat. » Il se tourna vers les deux premiers soldats, mais le troisième, le sourd, pouvait lire sur ses lèvres. « Emmenez-les dans le désert, ainsi que le suggérait le traître pour le garçon. Son plan est habile. Les vers détruiront toute trace. On ne retrouvera jamais leur corps. »«
Vous ne souhaitez pas les liquider vous-même ? » demanda l'homme aux cicatrices.
« Il lit bien sur les lèvres, » se dit Jessica. « Je suis l'exemple de mon baron, » dit le mentat. « Conduisez-les là où le traître disait de les conduire. » Jessica décela le sévère contrôle mentat dans sa voix, et elle songea « Lui aussi craint une diseuse. » Peter haussa les épaules, se retourna et gagna le seuil. Là, il hésita, et elle crut qu'il allait se retourner pour la regarder une ultime fois. Mais il partit.
« Moi, je ne voudrais pas affronter cette diseuse de vérité après cette nuit, » dit l'homme aux cicatrices.
T'as aucune chance de tomber sur la vieille sorcière, dit l'un des soldats en contournant la tête de Jessica et en se penchant sur elle. On ne risque pas de faire notre travail en restant là à bavarder. Prends-la par les pieds et...
Pourquoi on les tue pas ici?
Demanda le sourd.
Ce serait du sale travail, à moins que tu ne veuilles les étrangler.
Moi, j'aime les choses bien nettes.
On va les larguer dans le désert comme l'a dit le traître. On les frappera une fois ou deux, et on laissera faire les vers. Après, il n'y aura rien à nettoyer.
Oui. Oui, je pense que t'as raison.
Jessica écoutait, observait, enregistrait. Mais le baillon lui interdisait toujours d'utiliser la voix. Et puis, il y avait le sourd. Le balafré rengaina son laser et la saisit par les pieds. Les deux hommes la soulevèrent comme un sac de grains. Lui firent franchir le seuil et la posèrent sur une litière à suspenseur où se trouvait déjà une autre forme ligotée. En se tournant pour s'adapter à la forme de la litière, elle découvrit le visage de Paul. Il était attaché comme elle, mais n'avait pas de bâillon. Il n'était pas à plus de 10 centimètres d'elle. Ses yeux étaient clos et son souffle irrégulier. « Est-il drogué ?» se demanda-t-elle. Les soldats soulevèrent la litière et les paupières de Paul s'entr'ouvrirent pendant une ultime fraction de seconde. Deux fentes noires la regardèrent. « Il ne faut pas qu'il utilise la voix, » supplia-t-elle intérieurement. « Pas la voix, il y a le garde sourd. » Paul avait refermé les paupières.